Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat et bienvenue dans votre émission Page à page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Alors aujourd'hui, je reçois Alain Monnier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Qui va nous parler donc de ses livres. Et en attendant, comme à l'accoutumée, je vais vous donner quelques petites infos. Alors tout d'abord, toujours à la médiathèque, tous les mercredis, la lecture de contes, dont d'ailleurs je recevrai une conteuse très prochainement dans Page à page. Donc l'heure du conte à la médiathèque, c'est tous les mercredis à 11h pour les enfants de 2 ans à 4 ans et tous les mercredis à partir de 15h pour les plus grands à partir de 5 ans. Donc c'est l'accès est libre, c'est au Red Jardin, au Théâtre, Piccolo Théâtre, à la médiathèque José Cabanis. Je vous donne le numéro pour tout renseignement, 05 62 27 40 00. Voilà, ça c'était la première petite info. Ensuite, pour vendredi 23 et samedi 24 septembre, la librairie Ombre Blanche s'associe au Théâtre du Pavé pour vous proposer des concerts lectures, donc à la fois des mots et à la fois de la musique, du jazz plus exactement. Donc je vais vous donner le petit programme. C'est le vendredi 23, ça commence Le vendredi 23, ça commence... Attendez, je retrouve mon papier. Voilà, 20h30, pardon. Donc, au Théâtre du Pavé, c'est un concert lecture avec Jean-Claude Pinson, Francis Marmande et Patrick Williams. Une lecture de texte accompagnée au piano par Stéphane Oliva. Donc, l'entrée est libre. C'est pour le vendredi 23 à 20h30. Ensuite, le samedi 24 septembre à 16h, vous avez une lecture d'extraits de texte de Cortazar, Kerouac, Mingus et Reda par les comédiens de la compagnie Les Vagabonds autour de Francis Azéma. L'entrée est libre également. Ensuite, toujours le samedi 24 septembre à 21h, vous avez un concert avec Bruno Chevillon à la contrebasse, Jean-Marc Foltz à la clarinette et Stéphane Oliva toujours au piano. Et là, par contre, les tarifs, c'est pas une entrée libre, les tarifs vont de 16€, 12€ et 8€ et suivant, donc je pense, si vous êtes étudiant ou autre. Donc, un numéro de téléphone pour vous renseigner, 05 62 26 43 66, 05 62 26 43 66. Donc c'est à la fois donc des lectures et du jazz à écouter tranquillement pour ce week-end, vendredi et samedi. Je vous rappelle l'adresse du Théâtre du Pavé, bien entendu, c'est 34 rue Maran, c'est 31400 Toulouse, donc 34 rue Maran au Théâtre du Pavé.
Voilà. Page à page, Claire Ambille.
Poupoupitou. Merci Roger pour cette petite virgule. Je continue avec la sortie très attendue par les enfants, les adolescents, mais les adultes aussi, de Harry Potter, le tome 6, qui arrive dans les bacs à livres le 1er octobre. Alors, dans ce sixième tome, Harry Potter, bien sûr, va retrouver Ron et Hermione pour cette sixième rentrée à Poudlard. Et là, toujours pareil, la guerre avec les Mangemorts va s'annoncer imminente. Et ses pouvoirs sont de plus en plus puissants. Il y a des personnages qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Et d'après les lecteurs qui ont été les lecteurs anglais, puisque c'est sorti en Angleterre au mois de juillet, le 16 juillet 2005. Les premiers lecteurs anglais ont trouvé, enfin les jeunes lecteurs anglais ont trouvé ce tome encore mieux que tous les autres. Donc je vous invite vraiment à aller à partir du 1er octobre chercher ce sixième tome d'Harry Potter et de le lire. Voilà, c'est pour tout le monde. Alors en attendant de retrouver Alain Monnier qui va nous parler donc de ses livres, on va parler de lui, il va nous lire un extrait aussi d'un de ses livres. Je vais vous proposer d'écouter une petite chanson qui nous vient de Bretagne. Alors, Alain Monnier, vous connaissez la Bretagne ?
Très peu.
Très peu. Bon, très peu. Ben moi c'est pareil, je connais pas bien, mais bon. Alors ça nous vient de Brest, c'est une chanson avec quelques paroles en breton, qui est d'un jeune compositeur, auteur-compositeur, on va dire. Et voilà, donc c'est Brest à Tao.
T'invite à un long voyage. Et si les brisants et l'enfer viennent te creuser le visage, tu crieras Brest à Tao, Brésil gravé sur ta peau. Tu t'enfonceras dans les garennes et contempleras les nuages. Assis sur le bord de la mer, les goélands poussent l'attelage. Et tu crieras Brest à Tao, retourne dans l'âme et dans les flots. Ils te diront Brest à Tao, Brésil gravé sur ta peau. Si les courants d'air te lassent, bienvenue au pays de l'eau. Tu viendras chercher le soleil, tu viendras faire brûler ta peau. Accroché au mât de misaine, à 3 ou 4 mètres de haut, tu survoleras les dolmens, l'ombre des falaises sur ta peau. Tu seras fier d'avoir vécu dans ce pays bercé par l'eau, dans ce vrai pays de mystère où les Bretons sont matelots. Et tu crieras Brest à Tao, retourne dans l'âme et dans les flots. Ils te diront Brest à Tao, Brest ciel gravé. Ils t'accueilleront d'un bras ouvert du Finistère à Saint-Malo. Ils te présenteront leurs frères, t'embarqueront sur leur ration. Et tu crieras Brest à Tao, retourne dans l'âme et dans les flots. Ils te diront Brest à Tao, Brest ciel gravé sur ta peau. Et si un soir dans un bistrot, tu as croisé la fille de l'eau, de Camaré à Landerneau, tu lui crieras Brest à Tao. Kenamo Brest et à Tao, Brésil gravé sur ma peau. Retourne dans l'âme et dans les flots, retourne mes ZH, Kenavo.
Nous revoici dans votre émission Page à Page, où donc nous venons d'écouter une chanson qui nous vient donc de Bretagne, de Brest. Et pour ceux qui connaissent le breton ou ceux qui ne connaissent pas bien le breton, comme moi par exemple, Brest à Tao, ça veut dire breton pour toujours. Voilà. Donc c'était une petite chanson de Bretagne. J'ai oublié de vous dire, je crois, le titre du dernier tome d'Harry Potter. Le sixième tome, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Voilà, c'est le titre exact donc de ce sixième tome qui sort le 1er octobre. Je vous rappelle les précédents, tant qu'à faire, voir si vous les avez bien tous, pour suivre l'histoire donc d'Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers, ça c'est le 1. Le 2, c'est Harry Potter et la chambre des secrets. Le numéro 3, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, pardon. Ensuite, le numéro 4, c'est Harry Potter et la coupe de feu. Le numéro 5, c'est Harry Potter et l'ordre du phénix. Et donc, le numéro 6, comme je viens de vous le dire, Harry Potter et le prince du sang mêlé, qui sort chez Gallimard le 1er octobre. Voilà, donc mes annonces sont faites. Alors, je me tourne maintenant vers Alain Monnier. Alors, Alain Monnier, vous êtes né à Narbonne. Oui. C'est pas très loin, voilà, de Toulouse. Vous avez fait des études scientifiques.
J'ai fait des études scientifiques. J'ai exercé plusieurs métiers autour de la science.
Et ah oui.
Et tout ça n'a rien à voir avec
la littérature. Ah, parce que vous faites maintenant, oui, c'est rigolo
qui est,
ça.
Disons une autre activité.
D'accord. Donc vous êtes salarié, vous avez une profession salariée à Toulouse.
Oui.
Et donc votre passion, donc depuis à peu près, enfin l'adolescence, on va dire, c'est d'écrire. Vous avez toujours aimé écrire.
Disons que j'ai d'abord été, je crois, quelqu'un qui a aimé beaucoup lire, et puis où, disons, dans le secret, je me suis un petit peu mis à écrire depuis, j'ai des souvenirs effectivement très anciens, à part que jamais rien n'avait abouti, parce que j'écrivais 10 pages ou 30 pages, je me disais c'est pas bien,
des fois ça reste au fond d'un tiroir pendant des années.
Voilà. Et il a fallu attendre des dizaines d'années pour qu'un jour je me dise, bon, mais je vais quand même écrire un livre jusqu'au bout, et puis tant pis si c'est pas bien, je vais quand même jusqu'au bout. Voilà. Et un jour, donc, j'ai fait cet exercice. J'ai trouvé que c'était pas très bien à l'arrivée, donc je ne l'ai pas envoyé à des éditeurs. Mais le livre suivant que j'ai écrit, donc là, je l'ai envoyé. Ça a été le premier par Pau.
C'était le premier par Pau.
C'était signé par Pau.
Signé par Pau. D'accord. On va revenir sur les par Pau, justement. Donc, en fait, bon, c'est rigolo ce parcours donc d'études scientifiques, et puis donc avec cette passion quand même de la lecture et de l'écriture, vous arriviez à lire malgré vos,
Je crois comme beaucoup de monde. Quand j'étais un lecteur, j'aimais bien la littérature, évidemment. Au début...
Française.
Au début, c'était la littérature policière, quand j'avais 10 ans, comme tout le monde. Arsène Lupin. Sherlock Holmes, Rouletabille, etc.
Vous auriez lu Harry Potter, s'il y avait eu Harry Potter à l'époque?
Peut-être. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée là-dessus. Je sais pas, peut-être. Et puis après, j'ai lu des choses beaucoup plus classiques.
Plus classiques.
Balzac, Proust, la littérature étrangère. Oui. Bon, j'aime bien la littérature des pays de l'Est. Mais bon, je suis un lecteur, comme beaucoup de lecteurs. À part qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai aussi envie de m'essayer à ça, parce que ça me plaît.
C'est pas donné à tout le monde de pouvoir...
C'est une question d'envie, surtout, je crois.
D'envie, oui, une motivation aussi, comme vous dites, d'aboutir, quoi. C'est ça aussi.
Ça, c'est après un autre enjeu.
Oui, c'est un autre... C'est le parcours du combattant, un peu, pour...
Non, moi je crois que c'était le parcours du combattant personnel, déjà, pour se dire, mais je peux arriver à faire ça, et puis ce que je peux faire, je suis capable de le montrer parce que j'estime que c'est une certaine valeur. Donc ça, c'est quand même tout un parcours intellectuel pour arriver à abandonner une certaine humilité par rapport à tout ça. Et puis après, il y a le deuxième parcours qui est de dire, bon, ce manuscrit, je le montre, et de trouver un éditeur. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, mais moi, j'avais pas particulièrement de relations. C'était il y a une douzaine d'années maintenant. Je l'ai envoyé par la poste, avec quelques péripéties. Et puis, assez rapidement quand même, j'ai eu une émission.
Vous avez eu des réponses.
J'ai eu des éditions Climat qui m'ont appelé, qui m'ont dit que ça les intéressait. Et à partir de là, après, c'est relativement beaucoup plus facile.
Oui, une fois que vous avez trouvé un éditeur, après, vous.
Oui, surtout que j'ai eu la chance d'avoir cet éditeur. Je lui étais fidèle, il m'a été fidèle aussi.
Oui, après c'est une relation.
Donc après c'était une relation amicale où j'arrivais par exemple à lui envoyer un manuscrit que je considérais comme pas fini pour avoir un avis.
Et c'était un avis avant de l'envoyer vraiment. Quoi.
C'est ça. Et donc c'est un avis particulièrement intéressant parce que d'un professionnel et d'un avis de quelqu'un qui ensuite va prendre un risque financier avec vous, donc qui est quand même beaucoup plus dur, même s'il est très tendre quelque part, que les amis qui sont toujours gentils, qui vous trouvent toutes les bonnes raisons pour vous dire que c'est bien.
Quand il y a de l'argent qui rentre en jeu, il est bien connu que bon.
Oui, ça a une valeur. Je veux dire, ça donne de la limpidité à la vie qui vous est proposée.
Oui, tout à fait. Donc, je vais parler un petit peu des livres que vous avez écrits. Donc, il y a Côté Jardin, que vous avez écrit en 1998.
Oui, si vous dites que c'est en 98, ça va être ça.
Oui, qui est traduit en italien.
Aussi, oui.
Voilà. Et alors, c'est un roman plutôt noir, comme vous m'aviez un peu, on en avait parlé. Donc, c'est un roman plutôt noir, un peu à suspense et un peu style Hitchcock.
C'est ça, oui. C'est un suspense un peu de psychologie avec une situation qui se dénoue petit à petit. C'est pas un roman, c'est pas un polar ou quelque chose.
C'est un peu policier quand même. Enfin, c'est policier psychologique.
C'est quelqu'un à qui il arrive quelque chose d'assez bizarre. Et puis, il y a plein de gens qui viennent lui parler. C'est en parlant avec les gens qu'il se rend compte de ce qui lui est arrivé.
D'accord. Donc, à la fin du livre, on a la clé du...
De
tout ce qui s'est passé. Donc, c'est Côté Jardin. Moi, ça m'a fait penser à un peu à Fenêtre sur cour d'Hitchcock.
Oui. C'est dans cet état d'esprit, en tout cas. C'est-à-dire, c'est plus la situation et la psychologie des personnages qui donnent l'attention du livre plutôt que quelque chose qui va se dérouler beaucoup plus linéaire comme une aventure. Mm-hmm. Donc, c'est plutôt une tension de situation.
D'accord. Donc, côté jardin. Ensuite, on a Les Ombres d'Anna, qui a été donc publié en 1999.
Oui.
Un an après. Donc ça, c'est un roman donc psychologique aussi, avec au niveau des personnages principaux.
Hein, c'est un livre que j'ai eu envie d'écrire du fait peut-être de mon goût pour la littérature des pays de l'Est, de Kafka, des choses comme ça.
Donc parce que ça se passe dans un pays, vous ne nommez pas le pays, voilà, mais on devine que c'est un pays.
C'est un pays qui n'est pas nommé, qu'on peut situer donc à peu près effectivement vers l'Est,
dans
une époque qui n'est pas vraiment dite, mais on comprend bien qu'il y a un régime totalitaire. Mm-hmm. Et donc c'est un huis clos entre un homme qui est un fonctionnaire un peu pervers, un peu aigri, un peu restreint. L'administration de ce pays, et d'une femme qui veut quitter ce pays, qui
Anna,
et qui cherche donc à avoir un visa pour quitter ce pays.
Et puis bon, voilà, les rapports, il y a des rapports qui se tissent entre eux, et voilà, c'est assez psychologique.
Donc disons que c'est ce fonctionnaire qui tient le pouvoir exorbitant de délivrer ce visa, et qui, donc, par une manigance, va faire croire à cette femme qui peut lui donner un visa, et lorsqu'elle quitte tout, au dernier moment, il lui dit « vous ne l'avez pas », parce que l'administration centrale n'a pas voulu laisser passer. Je m'en excuse, mais pour me faire excuser, finalement, j'ai une grande maison avec une pièce libre, et je peux vous héberger. Et ça, c'est le début du livre.
D'accord. Donc après, voilà. Donc, lisez Les Ombres d'Anna et vous saurez ce qui se passe entre Anna et ce fonctionnaire.
Je peux juste ajouter que le plus pervers n'est pas celui qu'on pense.
Voilà, tout à fait. Donc, voilà, Les Ombres d'Anna. Alors ensuite, on a L'insoluble problème de la présence sur Terre en 2001. Alors ça, c'est un titre
assez...
voilà, ce sont des nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. Mais alors, qui a comme particularité, c'est que la plupart des nouvelles sont écrites avec « nous ». Au lieu que ça soit écrit avec « je » ou « il » ou « elle », c'est écrit avec « nous », le collectif.
C'était le parti pris ou la contrainte, on peut le dire comme on veut, que je m'étais fixé pour écrire ces nouvelles. Et c'est, par exemple, « nous les filles », donc c'est propos plutôt féministe, ou « nous », qui est un groupe de mercenaires qui font quelques exactions, ou « nous », bon... Et c'était le parti pris de l'écriture,
voilà,
c'était de s'exprimer
de style, voilà,
un petit peu.
Voilà, vous avez eu envie de faire un petit exercice de style. C'est original. C'est vrai qu'on rencontre plus souvent du « je », du « il », du « elle », voilà. Mais
le
« nous »
est très difficile
rare,
à tenir sur un très long
roman,
à mon avis. C'est pour ça que c'est découpé.
C'est sûr, c'est...
Bon, j'avais envie de m'essayer à ça. Et c'est vrai que le tempo de la nouvelle est plus facile à tenir là-dessus.
Ensuite, on a « Survivance ». Donc ça, c'est un roman. Donc c'est une histoire en fait de l'histoire du XXe siècle, vue et racontée surtout par quatre générations.
Par quatre générations, donc ça, c'est une histoire qui raconte un petit peu les grands événements du siècle et surtout qui se termine sur la quatrième génération qui va, disons, de 2000 à 2050.
Et un peu d'anticipation alors.
C'est pas de la science-fiction du tout, c'est de dire, bon, en fonction du monde tel qu'on le voit aujourd'hui, si on avance chaque chose qu'on sait d'une case en avant d'un pion, qu'est-ce que ça pourrait être demain?
En 2050.
En disant, bon, voilà, je sais pas, la prégnance de la biotechnologie ou de l'informatique aujourd'hui, je pousse tout ça d'une case, qu'est-ce que ça peut donner demain? C'était l'enjeu du livre. Et en le mettant bien sûr en perspective, puisque les choses n'arrivent pas seules, sur le siècle passé.
Tout est imbriqué, voilà, l'un dans l'autre, puisqu'il y a quatre générations, c'est sur quatre générations. Donc forcément, il y a un passé.
C'est ça.
Alors ensuite, on arrive au Parpo. Alors bon, moi, Parpo, Barthélémy Parpo, exactement. Donc on a d'abord signé Parpo en 1994, donc qui est votre
premier
livre publié. Donc Barthélémy Parpo, faut préciser que ce nom, il a été inventé toute pièce par vous-même. Hein, il y a toute ressemblance, point de suspension. Voilà, c'est pas. Ensuite, il est traduit en italien aussi.
J'ai Parpo. Pas mal de livres comme ça. Oui.
Voilà. Après, on a Un amour de Parpo qui est paru en 1996, puis Parpo le bienheureux en 2004, l'année dernière.
C'est ça.
Voilà. Donc, je vais m'attacher un petit peu à raconter, enfin, on va parler donc de ce Barthélemy Parpeau, parce qu'il a fait quand même l'objet de trois livres. Hein. On le suit dans ses péripéties, voilà. Dans ses aventures. Donc, signé Parpeau, le premier en 1994, ça se situe, enfin, l'histoire se situe à Toulouse. Hein. Parpeau et Barthélemy Parpeau est à Toulouse. Et en fait, il cherche du travail.
C'est ça. Donc c'est comment on pourrait dire, c'est un naïf, un peu décalé social, qui a une vision sur la société, mais qui l'exprime d'une façon
simple.
Assez simple, pleine de tendresse et de bon sens, disons. Et Barthélemy Parpeau exprime beaucoup de choses. Je crois qu'on peut penser les uns et les autres. À part qu'il a une certaine façon de s'exprimer. Il écrit beaucoup. Il écrit à tout le monde et de faire passer beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure.
Oui, donc ce qu'il faut signaler, c'est que ces trois livres qui racontent donc Barthélemy Parpeau sont construits de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des le livre est construit avec des lettres, c'est sur une forme épistolaire.
Même plus large que les lettres, puisque ce sont des traces écrites, il peut y avoir des comptes rendus de rapports,
des comptes rendus de réunions, des extraits de la dépêche,
des extraits de journaux, de la dépêche, il peut y avoir même un ticket de bus, alors ou une facture d'un garage, alors avec quand même comme contrainte de dire bon. Une facture de garage n'a aucun intérêt en soi, sauf si le lecteur va faire un bout du chemin de l'histoire en découvrant cette facture. Typiquement, pour donner un exemple, parce que c'est quand même assez fondateur du livre, c'est de dire Barthélemy Parpeau, par exemple, à un moment donné, va être en conflit avec le directeur d'une PMI, et plutôt que de dire, bon, voilà, il s'est passé ci ou ça, à un moment donné, on découvre la facture du garage Mercedes, où on voit bien qu'une voiture a été les pare-brises abîmées, les quatre roues crevées, et bon, le jeu du livre, c'est que le lecteur fasse un peu le parcours de la narration, et se dit, ah, s'il y a cette facture du garage, c'est que Barthélemy Parpeau est passé à l'action, et a fait, etc. Et donc, chaque fois, la pièce écrite n'a de sens et d'intérêt que si elle porte la narration, elle fait avancer la narration.
Ben oui, voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas évident c'est original comme procédé, je trouve.
C'était tout l'enjeu de ce premier
parcours. C'est bien. Et donc trois livres comme ça.
Et avec bien sûr l'idée de garder une histoire construite, de garder un suspense et de garder, enfin, quelque chose qui est très important pour moi, en tout cas quand j'écris, c'est de me dire que la personne qui prend le livre, il faut que je l'oblige à tourner les pages et
qu'il ait envie de découvrir
et que je l'amène jusqu'au bout, c'est qu'elle ait envie de lâcher le livre. Voilà. Donc, ça,
je conseille les Parpeau à tout le monde parce qu'on n'a vraiment pas envie de quitter Barthélemy Parpeau. Il est vraiment trop attachant, vraiment. Donc, Un amour de Parpeau, ça se passe à Paris. Par contre, donc le deuxième livre donc sur Barthélemy Parpeau, ça se passe à Paris dans un ministère qui n'est pas nommé précisément. Et donc, il va occuper un poste de personne handicapée.
C'est ça. Donc, disons, dans le premier livre, il cherche du travail. Puis finalement, il y a tout un tas de péripéties qui fait que il va après trouver dans le deuxième livre un travail et puis il va chercher l'amour. Et dans le troisième, ce qu'il cherche, c'est Dieu.
Oui, voilà. Donc, dans Parpeau, Bienheureux, c'est en 2004. Donc ça, il se pose des questions sur la religion, sur...
Voilà. En fait, il dit « j'arrive pas à être heureux sur Terre et peut-être que ce qui me manque, c'est d'avoir la foi. Et que si j'avais la foi, tout serait simple. »
Heureux, voilà. Il trouverait une femme, il trouverait du travail.
À partir de là, comme il n'arrive pas à avoir la foi, il va écrire au pape, il va écrire à l'imam du coin, il va écrire aux bouddhistes.
Oui.
Et donc, tout le monde va lui répondre à sa façon.
Au rabbin aussi. Au rabbin
et lui va faire une sorte de mélange, il prend un peu un bout aux uns aux autres et il va faire une sorte de syncrétisme religieux à la Parpeau.
Vous êtes athée à la Monnier?
Oui, moi je suis athée, à part quand même que je me pose la question des fois où je peux avoir dans mon entourage des gens que j'estime beaucoup ou des amis, des gens que je rencontre, que je trouve intellectuellement très intéressants et qui croient en Dieu. Et je me dis, bon, quand même, pourquoi ces gens-là arrivent à croire en Dieu? Voilà, donc c'est quand même une question que je me pose et qui a fait un peu le terreau de ce livre.
De ce livre. D'accord. Mais donc voilà, donc Parpeau le bienheureux. Donc c'est, il y a une petite différence avec les deux autres. Donc ils sont tous les trois construits pareil, donc avec des lettres, des articles, etc. Mais dans le troisième, donc dans Parpeau le bienheureux de 2004, il y a un passage où vous parlez en fait à votre personnage. En fait, à un moment, vous vous adressez à à Barthélémy Parpeau, où lui s'adresse à vous.
Oui, disons que
Barthélémy... Donc vous parlez tous les deux.
Barthélémy Parpeau cherche à tout prix Dieu, c'est-à-dire son créateur. Et au bout d'un moment, effectivement, il va rencontrer son créateur.
C'est-à-dire vous ?
C'est-à-dire moi, puisque Barthélémy Parpeau est un héros de roman. Et donc il va y avoir un passage de dialogue où... la créature papier va s'adresser au créateur pour lui poser des questions et qui est un peu une mise en abîme puisqu'il me pose les questions que moi je pourrais poser à un dieu que je ne rencontre pas.
Oui, donc c'est vraiment tout à fait original et intéressant, je trouve, ce passage, parce que c'est... Et après, bon, bah, il en découle, bon, bah, la fin de l'histoire...
Si vous voulez, ce héros qui se plaint de sa vie sur Terre, qui dit, mais quand même, qu'est-ce que ça pourrait être à un moment donné, le créateur, il se laisse faire et lui dit, bon, allez, maintenant, je vais te faire une bonne fin. Et c'est aussi la fin de la trilogie des Parpeaux.
Il y en aura plus.
C'est mal parti.
Oh, moi, j'aimais bien Barthélémy Parpeaux, j'aurais bien voulu encore lire d'autres aventures, mais bon, d'un côté, bon, bah, si vous le lisez, vous verrez que c'est un livre, voilà, le dernier, ça finit bien. Et Barthélémy Parpeaux n'a peut-être pas trouvé la foi proprement dite, mais en tout cas, il est très heureux.
Voilà.
À la fin du livre, il a trouvé ce qu'il lui fallait pour être heureux. On n'en dit béatitude. Pas plus, hein, pour voilà, une sorte de béatitude, voilà, pour être heureux. Et alors, quels sont vos projets à la Monnier ? Vous avez un nouveau livre qui est...
Oui, j'ai un nouveau livre, enfin, dont je ne peux rien dire sur la sortie parce que donc les éditions Climat. Ont arrêté leur activité, c'est-à-dire que Alain Martin, là, qui dirige les éditions,
a pris sa retraite.
Mm-hmm. Les éditions Climat sont reprises par Flammarion, mais bon, c'est toute une nouvelle aventure, donc ça s'est fait ce mois-ci, donc c'est toute une nouvelle aventure qui démarre, donc j'ai un manuscrit, il faut que je le montre, donc,
vous reviendrez nous en parler quand il sera publié.
Volontaire.
Donc, on peut dire quand même le titre, parce qu'il va pas changer le titre de toute
Je ne sais rien, enfin, pour l'instant, c'est un manuscrit qui s'appelle Givré.
Givré.
Voilà, Givré à tous les sens du terme, parce que c'est l'héroïne qui apparaît comme Givré, il y a une histoire de frigo au milieu, et c'est surtout notre monde qui peut être décrit.
C'est un peu comme une fable.
C'est une fable sur notre monde,
et sur
qu'on peut ne pas aimer dans notre monde.
Sur notre époque un peu bouleversée, actuelle.
C'est ça.
Bon. Et bien donc vous reviendrez nous en parler quand il sera. Sortie et vous avez toujours l'intention, bien sûr, après celui-ci, vous en avez d'autres dans la tête, en préparation, vous avez envie d'écrire
Oui, j'ai envie, enfin, disons que l'écriture, enfin, jusqu'à présent, chaque fois que j'ai fini un livre, il y a une période un petit peu de trois mois de repos, de rupture, etc. Et puis j'ai toujours eu une envie qui est revenue, puis peut-être qu'un jour il n'y aura plus d'envie et puis j'arrêterai d'écrire.
Ça serait dommage.
J'ai pas de recette particulière, donc c'est de l'envie,
ça marche,
d'écrire,
bien sûr.
Si un jour ça s'arrête, c'est que j'aurai peut-être plus rien à dire. Et si j'ai des envies, je continuerai évidemment.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Alain Monnier d'être venu nous parler de tous ces livres. Donc, je vous engage tout à fait à lire. Ils sont disponibles à la médiathèque et dans les bibliothèques de Toulouse, enfin, et d'ailleurs aussi. Et voilà, Alain Monnier, donc tous les livres dont je vous ai parlé, avec la série des Parpeaux, signé Parpeaux, Un amour de Parpeaux et Parpeaux le bienheureux. Donc, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je recevrai une dame qui est bibliothécaire en littérature enfantine et qui officie à la médiathèque de Toulouse. Et donc, elle viendra nous parler d'histoires pressées qui sont mises actuellement en court-métrage. Donc, elle viendra nous parler de tout ça. Ce sera très intéressant. Donc, je vous retrouve jeudi prochain à 9h30 sur Radio Occitania, comme chaque jeudi. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.